Merci d'être avec nous ce matin pour célébrer ce culte, un culte un petit peu particulier, en ce temps particulier aussi. Je vous invite à la prière et à ce que nous nous recueillons. Invoquons le nom du Seigneur. Seigneur, nous nous tournons vers toi. Vers qui donc nous tourner? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. C'est pourquoi nous te demandons encore aujourd'hui de nous adresser cette parole, mais nous voulons nous recueillir aussi devant toi, nous prosterner devant toi, car tu es seul Dieu, il n'y en a pas d'autre que toi. Toi seul nous mérite notre adoration et nous désirons vraiment encore aujourd'hui te la porter en esprit et en vérité. Père, inspire-nous et que nous puissions être dans cette liberté que nous donne l'Esprit Saint d'invoquer aujourd'hui le nom de Jésus et de le proclamer encore haut et clair en face de toutes les nations et en face de toutes les autorités. Père, sois avec nous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Dans le psaume 73, et au verset 25, nous allons lire trois versets. Le psalmiste dit « Qui dans les cieux me viendrait en aide, sinon toi ?» Et sur cette terre, que désirer puisque je suis avec toi ? Mon corps s'épuise, mon cœur aussi. Mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Ceux qui s'éloignent de toi succombent. Tu réduis à rien ceux qui t'abandonnent, mais mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur Dieu, pour proclamer tout ce que tu as fait. Dans ce psaume, le psalmiste nous dit sa quête. Sa quête du bonheur. Le bonheur, n'est-ce pas ce que nous recherchons, peut-être encore plus en ce temps de crise que dans un autre temps, mais de toute façon, tout homme cherche, et toute femme, cherche le bonheur. Qu'est-ce qui fait le bonheur de l'homme, dit le philosophe? C'est la réalisation de ses rêves. Il faut poursuivre un rêve, et quand on atteint le but, alors on a découvert le bonheur. Il y a des petits bonheurs, des grands bonheurs, il y a des grands buts, il y a des petits buts. Moi, je vous propose aujourd'hui une réflexion sur principalement le but de notre vie. Quel est-il ? Pour découvrir véritablement ce qu'est le bonheur, et peut-être pour écarter ce qui n'en est pas, et ce qui parfois est poursuite devant. Je vous en prie, prions ensemble. Seigneur, nous voici devant toi, sûrs de ta présence, sûr de ce que ta promesse encore aujourd'hui se réalise, là où deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais en ce temps particulier, Seigneur, où nous sommes environnés par ce monde anxiogène, ces pensées anxiogènes, ces peurs qui nous contraignent tout le temps, nous avons besoin d'être libérés de cela. Nous avons besoin de te rencontrer, de te ressentir, même si nous savons que tu es là. Nous avons besoin d'avoir ce tête-à-tête avec toi. Père, pardonne-nous si, aujourd'hui encore, nos peurs nous retiennent, nos peurs nous mobilisent, nos peurs nous contraignent. Seigneur, nous voulons confesser aujourd'hui que si le Fils nous libère, nous serons véritablement libres et nous voulons pouvoir vivre cette liberté sans crainte et sans peur. C'est pourquoi nous faisons, Seigneur, encore aujourd'hui, cet aveu de notre difficulté à te faire confiance en toutes choses. Père, pardonne-nous, exauce-nous. Amen. Mais nous savons que quand nous demandons pardon au Seigneur, le Seigneur est suffisamment grand que pour nous le pardonner. C'est pourquoi je vous propose un premier chant ce matin. Trouver dans ma vie ta présence, la présence du Seigneur, la trouver dans ce que je vis aujourd'hui, dans les difficultés que je rencontre aujourd'hui, dans tout ce qui aujourd'hui encore me coupe de cette relation à Dieu. Alors je vous propose de chanter ce premier chant, « Trouver dans ma vie ta présence ».
Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer.
Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir, Dieu notre Père, de ce qu'aujourd'hui encore nous sommes en vie et de ce que non seulement nous avons cette vie biologique, mais nous avons la vraie vie que tu nous offres en Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tous les jours que tu fais, dès le début de la journée, Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque matin, comme dit Jérémie. Dans un temps épouvantable qu'il vivait, dans un temps de souffrance et de difficulté, de confinement dans lequel il se trouvait, Seigneur, il pouvait encore dire qu'il était sûr que tes bontés se renouvelaient à son égard. Pour lui. Eh bien, Seigneur, nous voulons dire la même chose. Seigneur, nos yeux sont ébahis de voir ce que tu accomplis pour nous jour après jour. Mais, Seigneur, dessigne nos yeux afin que nous puissions voir aussi ce que tu fais et que nous ne percevons pas les tas de bienfaits, ton secours, ta garde, ta protection sur nos vies. Alors nous te bénissons, nous te louons pour cela. Nous te bénissons pour ceux et celles que tu visites encore aujourd'hui dans leurs difficultés, dans leurs problèmes, sur leur lit de maladie peut-être. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que aujourd'hui nous avons cette certitude que tu peux visiter les uns et les autres. Nous visiter nous-mêmes parce que, Seigneur, tu es là, là où un être est en souffrance, est en difficulté. Seigneur, tu ne t'écartes pas, tu t'éloignes pas, tu n'abandonnes pas, mais au contraire, tu te fais tout proche. Seigneur, que nos oreilles puissent entendre encore le bruissement de tes paroles aujourd'hui. Comme Élie qui cherchait dans des choses extraordinaires ta présence, et en fin de compte, c'était dans le souffle du vent que tu t'es manifesté à lui. Que nous puissions, Seigneur, dans ce bruissement, entendre ta voix encore aujourd'hui. Ressentir ta présence, celle que le Saint-Esprit peut aujourd'hui encore nous faire goûter. Oh oui, Seigneur, tu es bon et nous te louons et nous te bénissons encore. Amen. Un deuxième chant, en Jésus seul, oh quel amour, Jésus s'est donné pour nous afin de nous réconcilier avec le Père. Voilà l'amour du Père pour nous.
Sans pouvoir, il est à moi.
je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai.
Je tiendrai par la force du Christ. Si je me suis racheté, si Christ vit en moi, je suis sans crainte. Rien ne peut m'arracher à l'amour de Dieu, encore aujourd'hui, nous le confessons. Et je vous invite, les uns et les autres, peut-être, je ne sais pas, de façon très audible, à pouvoir prier le Seigneur ce matin. Prenons le temps de nous placer devant Dieu. Merci Seigneur de ce que un jour dans ma vie tu t'es révélé à moi. Tu t'es approché de moi et tu as révélé que tu étais le Dieu vivant, le Dieu d'amour. Et je te bénis et je te loue, Seigneur, de ce que ce n'est pas une révélation personnelle, simplement pour moi, mais c'est une relation dans laquelle tu as voulu m'introduire, et cela, en fait, compte aujourd'hui encore. Seigneur, tu veux introduire les uns et les autres dans cette relation. Merci de ce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, est un jour de salut, est un jour encore ouvert pour pouvoir se tourner vers toi à salut. Merci de ce que aujourd'hui encore, Seigneur, tu veux manifester ton amour et révéler encore que tu es celui qui a tout payé pour nous. Merci Jésus pour le prix de la croix payé. Merci de ce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous, grâce à ce prix payé par toi, nous sommes libérés de toutes nos fautes, de toutes nos transgressions, de tout notre péché. Notre culpabilité, Seigneur, elle est enfouie. Merci de ce que tu nous as fait grâce et que de ton Saint-Esprit encore aujourd'hui, eh bien, nous avons cette assurance, Seigneur, que nous sommes tes enfants. Et merci pour le témoignage interne du Saint-Esprit qui confesse à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et nous le sommes. Oh, quelle grâce, Seigneur, de pouvoir t'appartenir. Merci de ce qu'aujourd'hui nous marchons en confiance vers toi, Seigneur, et nous savons, Seigneur, que dans l'espérance de notre foi, le meilleur nous est réservé. Alors, béni sois-tu, notre Dieu. Alléluia. Amen. Prions, frères et sœurs, que quelques-uns puissent se faire entendre.
Merci de nous avoir permis de nous rassembler aujourd'hui, de nous donner l'occasion de prendre ce temps avec toi. Toi qui es là-haut, toi qui vois tout, toi qui gères notre vie et nous conduis là où tu crois devoir nous mener directement. Tu es notre berger. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, sois béni et sois loué. Tu te révèles comme le Dieu qui sauve. L'Éternel, Adonai, le Seigneur qui sauve encore aujourd'hui. Seigneur, nous voulons chanter, confesser notre foi, proclamer encore aujourd'hui que tu es ce Dieu qui sauve et qui sauve totalement. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Yahvé, l'Éternel est mon berger. Le Dieu sauveur est celui qui me garde.
L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Ô mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Ô mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne crains pas. Et dans son temps, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, ô mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne crains pas. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Ton soleil, Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres, Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier, Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Ô mon âme, chante mon âme, sans cesse et jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, tous les jours, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai.
Ton soleil, Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres, Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier, Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Le Seigneur est mon berger. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, bien souvent nous comprenons que, en fait, cette vallée de l'ombre de la mort, c'est les derniers jours. Mais combien faut-il réviser notre pensée ? La vallée de l'ombre de la mort, c'est tous les jours depuis que nous naissons, jusqu'au jour où nous fermons les yeux, jusque sur ce monde. C'est cette vallée-là que nous traversons. Et c'est cette vallée-là dans laquelle nous marchons encore aujourd'hui. Ce n'est pas simplement un temps, un moment, les derniers instants, car en fin de compte, nous savons que nous sommes quelque part, toujours guettés. Jusqu'au jour où nos yeux verront Jésus, alors ce moment-là, ça sera le temps, et le temps où nous serons dans la vie, et une vie qui n'en finit plus. En tout cas, ça, c'est ma foi et c'est ma conviction que je partage avec vous aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur, merci de ce que nous t'apportons notre adoration, nous t'apportons notre louange, nous t'apportons notre offrande, Seigneur. Mais comme on ne sait jamais t'apporter quelque chose sans que tu donnes, aujourd'hui encore, nous te demandons que, au travers de du texte lu, ta parole puisse encore parler à nos cœurs et que nous puissions encore, Seigneur, ressortir plus riches que ce que nous étions arrivés. Et nous puissions vraiment être dans ce bienfait. Père, nous te prions vraiment pour que ton Esprit Saint nous touche encore aujourd'hui et nous éclaire et que ta parole devienne vie et lumière en nous. Nous te le demandons au nom de Jésus, lui qui est la parole incarnée. Amen. Frères et sœurs, ce temps est un temps particulier, un temps où les choses, rien n'est simple, tout est compliqué. Tout est dit un jour, tout est redit le lendemain, tout est changé, ce qui était n'est plus, ce qu'il faut, etc., etc., etc. Un temps de bouleversement et un temps de bouleversement intérieur, mais un temps de crise, certes, mais la crise en grec, crisis, c'est un temps de croissance. Donc, oui, on passe par la crise de l'adolescence, hein, quand, en fait, quand on quitte l'enfance et que l'on rentre dans l'adulte, eh bien, il y a une crise que tous les parents doivent subir et que les adolescents vivent aussi, mais c'est une crise de croissance. Alors, dans ce temps-là, je me suis efforcé et je me suis posé des questions. Mais en fait, qu'est-ce que ce temps nous dit ? Alors, certains ont dit « Oh, c'est la fin des temps, c'est le péché de l'homme, etc. etc. » Moi, je ne rentre pas dans cette réflexion-là, mais je voudrais vous apporter une autre réflexion, peut-être un petit peu plus philosophique, hein, peut-être un petit peu plus philosophique, mais beaucoup de philosophes aujourd'hui se sont penchés et se sont souciés de cet élément et comment on vivait la crise. Sociologue aussi. Et quand j'ai lu ce que généralement, je consulte Olivier Rey, Bernard-Henri Lévy, comme sociologue Frédéric de Coninck, en fait, en les relisant, je me suis dit, mais tout compte fait, il est une réalité dans cette vie, c'est le fait que nous avons quelque part sacralisé la santé. Est-ce que vous ne vous êtes jamais dit, enfin moi je me suis déjà dit, hein, je le confesse, hein, mais comment c'est possible que les médecins ne puissent pas trouver le moyen pour guérir telle ou telle chose. C'est normal, quoi, que l'on soit guéri. C'est l'idée dans laquelle nous nous trouvons. Et juste un petit peu avant la pandémie, qu'est-ce qu'il y avait comme pensée ? Eh bien, c'est que, en fait, il y avait tout ce que l'on appelle le transhumanisme, c'est cette idée que bah, tu as un cœur qui ne fonctionne pas, bah, on va te trouver un nouveau cœur, on va te trouver des nouveaux poumons, on va te trouver... Et en fait, compte, derrière tout cela, il y a cette idée qui est claire. C'est la recherche de l'immortalité. L'homme est à la recherche de son immortalité. Et quelque part, on a confié cette recherche à un système de santé. Et aujourd'hui, comment est-ce que c'est possible ? On n'a pas vu venir ce Covid-19, on ne sait pas d'où il est sorti, c'est un petit machin qui, quelque part, vient tout bouleverser, tout arrêter, pour lesquels les, comme dit Bernard C. Henri Lévy, les sachants disent « on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas le guérir et on ne sait pas ce qu'il y aura après ». On est devant une expectative. Vous avez jamais remarqué ça ? Les experts qui sont auprès du gouvernement, experts de quoi ? Experts, en tout cas, pour moi, mais ça ne concerne que moi, hein. Les experts qui disent, bon, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas comment ça va se passer. Et puis on est dans l'expectative. C'est chaque jour quelque chose que l'on apprend qui est différent, etc., etc. Et moi, par rapport à cette sacralité de la santé, j'aimerais quand même vous conduire vers quelque chose d'autre. Alors, en fait, une petite phrase qui ressort du Nouveau Testament, « Étrangers et voyageurs sur cette terre ». C'est ainsi que en parle la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 1, et chapitre 2, verset 11. Et je voudrais que nous puissions réfléchir sur cette notion de étranger et voyageur sur cette terre au travers d'une réflexion de la Première Alliance, un texte de la Première Alliance, qui est le psaume 84. Alors aujourd'hui, il y en a certains qui en rêvent, hein. Je ne vise personne. Je vous emmène en voyage, même là où, quelque part, on ne peut pas aller. Et je vous dis, bienvenue à bord. Notre destination, elle est Jérusalem. Psaume 84, cantique de ceux qui arrivent à Jérusalem. Seigneur de l'univers, comme j'aime ta maison. Je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Tout mon être crie sa joie au Dieu vivant. Même le moineau trouve un abri, l'hirondelle un nid où mettre ses petits près de tes autels. Seigneur de l'univers, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent t'acclamer sans cesse. Pause. La pause, ce n'est pas simplement une respiration dans la Bible, c'est une réflexion. C'est là, c'est le moment où on se pose pour réfléchir. Nous continuons notre lecture. Oh, j'appuie sur un autre bouton, voilà, c'est pas toujours évident. Heureux, verset 6, ceux qui trouvent chez toi un refuge. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Quand ils passent par la vallée des mûriers, il y a une autre vallée, ils la changent en oasis. Même la pluie d'automne la couvre de bénédictions. À mesure qu'ils avancent, ils gagnent des forces pour se présenter devant Dieu à Sion. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière, écoute, Dieu de Jacob. Pause. C'est le deuxième volet de notre psaume, mais nous ne l'aborderons pas aujourd'hui, nous l'aborderons sans doute la fois prochaine, à moins que le Seigneur change tous mes plans. Verset 10, Dieu, regarde notre bouclier. Accueille celui que tu as mis à part. Oui, un seul jour dans les cours de ton temple vaut mieux que mille autres passés ailleurs. Plutôt rester au seuil de ta maison, mon Dieu, que vivre avec les gens méchants. Le Seigneur Dieu est un soleil, un bouclier. Il accorde la bienveillance et la gloire. Le Seigneur donne volontiers le bonheur à qui mène une vie sans reproche. Seigneur de l'univers, heureux celui qui a confiance en toi. Lorsque je lis un texte, qu'il soit de la première alliance ou de la deuxième alliance, j'ai d'abord une première grille d'analyse. Et ma première grille d'analyse, c'est en fait de me poser la question, quelles sont les répétitions ? Car en fait, compte, nous devons nous rendre compte d'une chose, c'est que le support au temps des écrivains de la Bible, les supports sont rares, ils sont chers, on n'est pas dispendieux, on ne dépense pas comme aujourd'hui. Et donc, une répétition, si elle est faite, c'est qu'elle a un sens. Quelles sont les répétitions qui se trouvent dans notre texte ? Eh bien, si nous y regardons bien, la première des choses, c'est que nous allons trouver trois fois l'expression « Seigneur de l'univers ». Dans d'autres Bibles, autrement dit, ça sera « l'Éternel des armées ». Adonai Tsebaoth. Cette expression-là n'est pas une expression comme ça. Cette expression-là, c'est une que je retrouve multe fois dans la Bible, mais dans un endroit qui, pour moi, est particulier, c'est cet endroit où Ésaïe, le prophète, sacrificateur aussi, certainement, puisqu'il se trouve dans le temple de Jérusalem, et Ésaïe a une vision. Et il voit Dieu. Oh, n'allez pas trop vite, hein. En fait, compte, dans cet immense temple, qui est le temple de Jérusalem, il ne voit que le pan de son manteau. Ça veut dire tout simplement que, en fait, compte, la vision qu'il a est une vision grandiose de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de mince, petit, réduit, c'est quelque chose qui a une dimension qui dépasse tout. Et là, il entend le chant des séraphins qui chantent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Celui qui a créé les cieux et la terre. » celui qui a créé l'univers. Mais celui qui a créé l'univers, en fait, quelle taille a-t-il ? Aujourd'hui, même les télescopes les plus puissants ne voient pas encore la fin de l'univers. Dieu est plus grand que cela. C'est vous dire qu'en fait, on se retrouve devant ce Dieu grand, extraordinaire. Mais ce Dieu grand et extraordinaire, on va le trouver donc au verset 4, au verset 9 et au verset 13, par trois fois, il est dit cela, mais de façon assez paradoxale, on va trouver trois fois le mot « heureux ». Trois béatitudes dans ce psaume. Il y a trois parties dans le psaume et trois fois est répété le mot « heureux ». Heureux, Asher, en fait, souvenons-nous, prédication que j'avais faite précédemment ici, le bonheur, Asher, c'est pas du tout ce que nous avons et que nous concevons. Pour nous, le bonheur est un état. Moi qui étais pasteur assez longtemps dans le Borinage, il y avait une expression dans le Borinage, Raymond a certainement déjà entendu aussi, et sibines, waouh, je suis heureux. C'est bien souvent dans notre idée, le bonheur est un état dans lequel nous devons arriver. Ben non, dans la Bible, non. Car en fin de compte, Asher, c'est être en marche. Nous sommes en marche, en démarche. Ce n'est pas un état, c'est une dynamique. On va vers. Et donc, alors, vous allez comprendre une petite chose, c'est que celui qui veut être heureux, eh ben, il est celui qui se déplace. Et si vous voulez voir une traduction assez problématique, une bonne traduction, mais compliquée à lire, lisez Chouraki, et vous allez voir que chaque fois, le mot « heureux » est changé en « en marche ». Dans ce psaume, nous sommes en marche. En marche vers quoi ? Mais en fait, comme les pèlerins, nous sommes en marche vers Jérusalem. C'est comme cela que l'on doit pouvoir concevoir la chose. Le temple, pour le psalmiste, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Mais nous savons très bien, frères et sœurs, que ce lieu de la rencontre avec Dieu, il s'est modifié, il est changé. Car en fin de compte, c'est très clair. C'est que Dieu n'habite pas dans une habitation faite de mains d'hommes. Mais Dieu, en Jésus-Christ, s'est fait proche de nous, il s'est fait tout proche de nous, et lorsque nous avons confessé notre péché, lorsque nous avons accepté la grâce qui nous est faite en Jésus-Christ, lorsque nous avons accueilli aussi cette grâce, nous accueillons en même temps l'Esprit Saint, l'Esprit de vie. Non seulement vous avez devant vous quelqu'un qui est un vivant, je vis encore aujourd'hui, mon cœur bat encore, mais je suis un vivant parce que j'ai cette certitude que un jour mes yeux verront Jésus et que par le fait d'avoir accueilli la grâce en moi, j'ai devant moi cette espérance de vie qui est celle de l'éternité. Dieu vit en moi par l'Esprit Saint, et donc, au fond, le lieu de la rencontre est un peu différent pour nous dans notre démarche. Le lieu de la rencontre, ça va être ce lieu de où il y aura d'abord le cœur, mon cœur, et puis il y a cette promesse de Jésus. Là où deux ou trois se réunissent, je serai au milieu d'eux. Donc aujourd'hui, je vous invite à voir ces choses telles que les pèlerins. Alors, on va passer de l'hébreu au grec, hein, vous avez l'habitude avec moi. En fin de compte, quand l'épître aux Hébreux ou l'apôtre Pierre parle des étrangers et voyageurs par épidémos, alors en fait un beau mot en grec qui provient d'un préfixe, para. Para, c'est à côté. Et puis, épidémion, c'est être chez soi. Qu'est-ce que veut dire ce texte-là? En fait, c'est un étranger, c'est quelqu'un qui est de passage. Mais, qui est de passage, mais il est à côté des autres. Bien souvent, dans notre façon de voir et de parler de gens, de ceux qui ne sont pas belges, on parle des étrangers. Ah ben, moi, je suis étranger, bien que né en Belgique, bien que ayant une peau plus ou moins blanche, hein. Mes parents étaient étrangers. J'ai été considéré très longtemps comme étranger. Moi, j'ai toujours des problèmes. Hein. Prenez le cas des enfants Loukoussa. Sont-ils étrangers? Ils sont nés en Belgique et ils ont une nationalité belge. Bien souvent, nous avons de mauvais et de faux raisonnements sur les étrangers. Mais il y a une chose qui est claire quand je regarde la Bible, c'est que, étant donné qu'en fait compte, aujourd'hui, moi, je ne fais plus partie d'une patrie terrestre. Ma patrie, elle est céleste. Ma nationalité, moi, elle est céleste. Et donc, en fin de compte, sur cette terre, je suis quelqu'un qui est à côté des autres, en relation avec les autres, parce que je respecte le code de la route, parce que je respecte la distanciation, la port de masque, etc., etc. Mais, en fin de compte, je suis différent. Est-ce que vous êtes différent? Est-ce que vous vous sentez aussi quelque part étranger? Moi, je suis en marche pour un ailleurs, tout en étant dans une relation temporaire aujourd'hui. Le chant des pèlerins. Ça se retrouve dans Hébreux, chapitre 11, verset 13. « C'est dans la foi qu'ils sont morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » De quoi s'agit-il? Mais il s'agit de tous ceux qui nous ont précédés. Tous ces chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, ce sont tous les gens de la foi, tous ceux qui étaient croyants, qui ont cru dans ce qui leur avait été promis, mais qui n'ont pas vu encore la promesse s'exaucer. En ce qui me concerne, moi, je voudrais reprendre juste une parole de Jésus qui dit ceci en Matthieu 6, 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » De quoi parle-t-il ? Mais il le parle précisément de ce qui nous attend, de la patrie céleste, de la vie après la mort. Il nous parle de ce qui nous est acquis, que rien ne peut nous arracher. Même la teigne, même la rouille ne peuvent pas nous enlever ce qui nous est acquis dans les cieux. Et dès lors, Jésus dit, si tu as ce trésor, alors investis ton cœur. Investis ton cœur à cela. Bien souvent, frères et sœurs, nous investissons dans des tas de choses. Moi, je me souviens d'un temps où je me suis investi dans des choses tout à fait matérielles. Tout à fait matérielles. Avant que je ne sois pasteur, après que je sois pasteur. Donc, ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on ne s'investit pas dans des choses qui sont futiles. Mais combien de temps ai-je passé alors que j'aurais pu passer du temps à autre chose, à ce qui est éternel. En route, le commentaire d'un lord, John Olvey, dit ceci, « Pendant les années de notre vie, nous pouvons vivre la vie abondante avec toutes ces aventures comme pèlerins du Seigneur. Nous avons besoin de poursuivre, dit-il, trois choses. Un, c'est de poursuivre un but. Avoir un cœur de pèlerin et avoir la puissance du pèlerin. Le but, et nous terminerons par là, c'est quoi le but de notre vie ? Comme elles sont chéries, tes demeures, Seigneur éternel, Dieu des armées, je m'épuise à force de languir après les cours du temple du Seigneur, mon cœur, ma chair, crie vers le Dieu vivant. Le psalmiste est un passionné. Est-ce que je suis un passionné de Dieu ? Est-ce que je suis un passionné de Jésus ? Est-ce que je suis un passionné du Saint-Esprit ? Est-ce que ma passion, c'est cela ? Bien souvent, nous sommes passionnés par des tas de choses. Moi, je redécouvre des gens qui, un jour, dans notre assemblée, je prêchais un dimanche et je dis, mais en fait, compte, moi je ne suis jamais en train de me poser la question, qu'est-ce que demain va être le feuilleton nouveau des feux de l'amour ? Et là, spontanément, il y a une dame dans l'assemblée qui me répond, qui me dit, mais moi bien ! Si je n'ai pas les feux de l'amour, je ne vis plus. Waouh ! C'est pas possible. Nos passions, je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir, mais nos passions, elles, doivent arriver en deuxième lieu, après celle qui doit motiver notre vie, essentiellement, c'est la passion du Seigneur. Alors, frères et sœurs, mettons notre cœur, notre volonté, parce que le cœur, dans la Bible, c'est la volonté. Mettons notre volonté, tout ce que nous avons en nous, notre chair, mettons-le afin de pouvoir vivre ces instants d'éternité avec Dieu dans ce lieu dans lequel je peux le rencontrer. Et quoi de mieux que de le rencontrer dans l'Assemblée ? Je le rencontre chez moi, je le rencontre aussi dans l'Assemblée, et quel bonheur de pouvoir le partager et partager cela avec vous aujourd'hui. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous traversons des temps difficiles, des temps de sécheresse, des temps d'aridité. Nos vies sont dans l'aridité. Aujourd'hui encore, tu nous appelles, tu nous exhortes, tu nous invites à rechercher ta face, à rechercher ce temps, ce tête-à-tête avec toi, ce temps privilégié où nous partageons ta présence. Seigneur, j'aspire aussi à pouvoir retrouver les cultes où on partage avec le plus grand nombre. Seigneur, ne permets pas que dans ce confinement, je reste dans mes peurs, dans mes craintes, que je reste en trouvant un confort devant mon écran. Seigneur, nous avons besoin de ta présence, mais nous avons besoin aussi de la présence des frères, des sœurs, de te toucher, mais aussi de pouvoir partager avec ceux qui nous sont chers. Seigneur, quand reviendra-t-il ce temps ? Seigneur, hâte ce temps, nous t'en prions en Jésus. Amen. Un dernier chant qui sera pour nous un temps de consécration. Je te donne tout.
Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi.
Je vais faire les annonces. Il n'y a pas grand-chose à dire, sinon que nous sommes dans la période d'été, et donc nous avons les réunions de prière le jeudi soir. Le pasteur et son épouse sont en vacances jusqu'au 15 août, et je me suis rapproché de Marianne pour avoir des infos sur Thibault, qui avait été opéré il y a 15 jours à peu près, et qui est sorti. L'opération s'est bien passée, et donc il est en convalescence maintenant. Voilà. Je n'ai pas d'autres annonces de mon côté.
Merci de m'avoir accueilli ce matin. Merci pour votre présence bienfaisante ce matin pour ce culte. Je vous invite, je peux, hein, non, vous inviter à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Shalom. Que la grâce de Dieu soit sur vous. C'est notre dernier chant. Et puis nous sortirons en ordre bien réglementé, ceux du fond d'abord.
Juste pour rappel, pour ceux qui auraient préparé une offrande, il y aura des paniers qui seront à l'extérieur. Et puis, il y a des gens qui vont venir vous chercher pour sortir en ordre. Merci.